Marco D'Amico, comment ça va, mon Marco?
Comment ça va, Big?
Ça va très bien, les gars, vous autres?
Ça va très bien.
Super.
Ça va même mieux que Jimmy Somerville. Tu sais que tu nous sauves 10 000, toi, cette année?
OK, je prends des rabais sur le chèque aussi, si ça vous tente.
Il n'y a pas de problème.
C'est parfait, ça, Marco.
Marco, pour commencer, Marco, là, les gens commencent à être excités parce que là, même on voit souvent des gens qui veulent des nouvelles de Zarovski, mais là, avec la situation de Zaych puis lui, entre les deux, qui, selon toi, est le plus probable de venir terminer la saison avec le CH?
Ça va être Michael Hage, à mon avis. Je pense que, premièrement, du côté de Michael Hage, la saison qu'il connaît déjà est impressionnante. C'est pas encore complété en termes de son développement. On aimerait voir un peu plus de lui à 5 contre 5, mais en termes de qu'est-ce qu'on voit, en termes de l'implication physique, tout ce qui est mise au jeu et jeu défensif se sont grandement améliorés de l'année passée à cette année. Le Michigan, cette année, est beaucoup plus fort aussi dans la NCAA. Donc, on attend vraiment de les voir jouer contre des gros canons pour vraiment se dire que c'est l'équipe, pas favorite, mais une des équipes favorites pour gagner le championnat de la NCAA. Mais une fois tout ça fini, et si le Michigan fait un bon petit bout, qu'est-ce qui arrive avec Michael Hage? Est-ce qu'il retourne dans la NCAA jouer une troisième saison ou est-ce que c'est le temps de le faire monter avec le Canadien de Montréal? Et ça va être un peu la même situation qu'on a vu par le passé avec les Cole Caulfield, les Lane Hudson, où est-ce que tu vas vraiment avoir la discussion, est-ce que tu vas le faire monter avec le Canadien? Parce que s'il signe avec le Canadien de Montréal, s'il signe son contrat d'entrée immédiatement, non seulement est-ce qu'il brûle la première année de son contrat, mais il doit rester avec le CH jusqu'à la fin de la saison, ne peut pas jouer dans la Ligue américaine. Moi, je crois que vu son statut comme choix de premier tour, vu son talent et vu le fait qu'il joue une position primordiale comme étant un centre, on risque de le voir avec le Canadien de Montréal à la fin de l'année. Zarovski, lui, c'est une situation différente, a encore un contrat pour l'année prochaine. C'est pas la même situation que Demidov. Le Canadien se sent très confortable avec son utilisation à UFA, donc ça serait pas surprenant qu'il complète son contrat et qu'on voit seulement Zarovski à Montréal le printemps 2027.
Ouais, Zarovski est un peu plus loin. Je suis très curieux de voir Hage aussi, parce que le Canadien de Montréal, quand il faisait avec des joueurs, était en reconstruction, donc c'était facile de les plugger dans l'alignement. Mais maintenant, si tu te bats pour une lutte, pour une place en séries éliminatoires, parce que si le Canadien a déjà la petite étoile à côté de son nom, ce sera plus facile de placer Hage. Parlons maintenant d'Ivan Demidov. Tout le monde s'est levé, tout le monde a applaudi. Ivan Demidov est sur la première vague en avantage numérique. Ça marche à 50% depuis qu'il est là en plus. Mais toi, tu persistes à dire qu'aussi ce serait le fun. Et on en a parlé avec Georges, c'est drôle, on en a parlé dans la dernière heure que ça va peut-être prendre un deuxième centre éventuellement pour voir les minutes de Demidov monter à 5 contre 5.
Je crois que c'est pas nécessairement juste l'acquisition d'un deuxième centre qui va faire en sorte que ces minutes vont monter. La raison pourquoi les minutes d'Ivan Demidov ne sont pas élevées, c'est parce que, spécialement sur la route, on a vu... Martin Saint-Louis veut aller avec le jeu safe vu qu'il n'a pas dernier changement. Donc, ça va affecter l'utilisation d'Ivan Demidov dans ce contexte-là. S'il y avait un vétéran comme deuxième centre que Martin Saint-Louis avait de la confiance, ce serait une différente histoire. Mais là, je crois que, et c'est là où que, la discussion est intéressante, on voit plutôt Martin Saint-Louis, à place de vouloir le greffer à un centre, disons, responsable, même si je crois que Oliver Kapanen est un centre très responsable déjà dans sa jeune carrière, on voit que ses minutes à 5 contre 5, on espère que ses minutes à 5 contre 5 continuent à augmenter, parce que comme on a discuté dans le podcast Le Processus plutôt hier, c'est vraiment la grosse différence entre lui et Matthew Schaefer dans la course pour le Calder. Matthew Schaefer qui joue du 22-23 minutes par match, oui, c'est un défenseur, mais c'est quand même du temps de jeu d'un joueur qui vraisemblablement serait un top 3 dans ton équipe côté défensive. Ivan Demidov est utilisé à 13-14 minutes en ce moment. On aimerait voir ce chiffre-là plus vers le 17-18 minutes. Et donc ça va prendre un peu plus de confiance à 5 contre 5. Est-ce que ça va faire en sorte que les Canadiens vont peut-être pousser l'échéance pour aller se chercher de l'aide au centre? Ou est-ce que ça va faire en sorte que le Canadien n'aura pas le choix de donner plus de minutes au trio de Kapanen avec Demidov et Newhook? C'est ça vraiment le débat interne qui se passe en ce moment avec les entraîneurs. C'est ça qui, selon moi, va déterminer vraiment le temps de jeu d'Ivan Demidov, parce que oui, tu peux donner la première vague de l'avantage numérique, mais il gagne quoi en faisant ça? Peut-être 45 secondes par vague. Ça, c'est pas assez pour le hisser vers le 17-18 minutes qu'il va vraisemblablement avoir besoin pour éclore dans cette ligue.
Tranquillement, Marco, le marché des transactions, là maintenant, il y a des équipes qui commencent à se positionner. On parle des Canucks, les Bruins, les Flames qui se font appeler. Puis là, les Sharks qui, eux, on sait, s'enlignent pour vendre. Est-ce que tu vois le Canadien commencer à être actif et d'en profiter aussi dans ça?
Ce que je dirais même dans ce contexte-là, c'est que non seulement est-ce que les Canadiens sont actifs, les Canadiens se sont déjà fait une idée de quel club serait dans cette situation-là, même avant que la saison débute. Juste à cause qu'il n'y a tellement pas eu de transactions durant l'été. Et c'est à cause du fait que la grande majorité des clubs, je dirais 30 sur 32, croyaient vraiment qu'ils pouvaient faire les séries cette année avec leur club. Et on en parle depuis le début de mon temps sur comme chroniqueur ici, mais c'est vraiment la date butoir de l'action grasse américaine qui va vraiment commencer à pousser des clubs à se dire « Ouais, on n'est pas tant une équipe de série cette année, et regarde la belle cuvée de 2026 qui s'en vient avec les McKenna, les Veerhoff, il y a plusieurs, les Stenberg, etc., qui sont au top de cette cuvée. C'est très intéressant. Les DG en ce moment sont en train de se faire créer au téléphone par leurs recruteurs amateurs, parce que le top 10 de cette cuvée-là est très top heavy, un peu comme on a vu avec 2023. Donc, c'est intéressant. Et je crois que ça va aussi pousser avec la hausse de la masse salariale et le fait qu'il y a plusieurs clubs qui n'utilisent pas du LTIR cette année. Il y a plusieurs transactions qui risquent de se produire plus tôt qu'auparavant. C'est pour ça qu'on voit tellement de fumée autour de Boston avec Pavel Zacha qui est lié aux Canucks, et que là, on commence vraiment à entendre beaucoup sur Nazem Kadri avec les Flames qui, eux, n'ont pas bien parti la saison et qui ont un noyau vieillissant. Donc, c'est là la conversation, et c'est là où je crois que les Canadiens vont regarder pour voir s'il y a une opportunité pour prendre avantage. Mais selon ce que je me suis fait dire, ils vont pas se hisser sur n'importe quoi. Ils vont seulement se donner à 100% s'ils croient que le fit est parfait.
Ben c'est drôle, mais c'est deux noms qu'on entend et c'est deux noms dont on a déjà jasé également. Zacha s'est sorti avant le début de la saison. Kadri également, un Kadri à 35 ans, un contrat aussi particulier. Tu vois-tu le Canadien, mettons, juste décrocher et voir ce que ça pourrait coûter, ou ces deux profils que tu vois pas nécessairement? Parce que là, le Canadien, t'es 7-3, mais là, au moins, t'as vu un petit peu ton équipe a réagi comment. Est-ce que t'as besoin absolument d'un deuxième joueur de centre? Est-ce que ces joueurs-là, greffés à ton club, peuvent venir aider, dynamiser tout ça, à ton avis?
Je crois que les Canadiens ont le bénéfice de pouvoir être patient dans la situation, parce que il y a aussi le contexte, puis tout le monde en parle, puis là, c'est de valeur parce que Pittsburgh gagne beaucoup.
Ouais.
Mais il y a aussi le dossier Sidney Crosby à suivre et de voir si les Penguins de Pittsburgh vont chuter comme ils ont chuté à ce moment-ci de l'année passée. Et c'est vraiment, tu sais, il y a cette possibilité-là. Si tu te lances dans l'acquisition d'un deuxième centre, est-ce que tu te sors de cette possibilité-là aussi? C'est là le jeu que Kent Hughes doit jouer. Et je dis pas que Sidney Crosby est une valeur sûre s'il se donne le désir de partir de Pittsburgh, ce que je doute encore à ce moment. Mais ce que je pense, c'est que le Canadien peut se permettre d'attendre la bonne opportunité, parce que pour la première fois depuis leur reconstruction, ils ont de l'offensive secondaire en Ivan Demidov qui livre la marchandise en ce moment, même sans un vrai deuxième centre. Donc, pas de presse dans ce contexte-ci, mais si une bonne opportunité à bon prix arrive, je ne crois pas que Kent Hughes et Jeff Gorton vont hésiter.
Écoute, ça va être un marché très différent cette année, puis on est tous curieux de voir si le Canadien va participer plus tôt que tard à ça. Ouais. Marco, qui gagne ce soir en terminant?
Ah, écoute, je crois que le Canadien joue de la très bonne façon. S'ils sont capables de rester hors du cachot, c'est une victoire du Canadien de Montréal ce soir.
Victoire du Canadien de Montréal.
Merci, Big.
Marco, merci beaucoup. On t'écoute à Processus et on continue à te parler. On se reparle la semaine prochaine, nous.
Plaisir, les gars. Bonne journée.
Yes.
Salut, Marco.
Marco D'Amico, qui est avec nous tous les mardis.